bien, bonsoir Patrick. Vous avez lu, il paraît, le programme de Sarah Knafo et vous en avez sélectionné 10 propositions. Qui pourraient être adoptées par d'autres candidats selon vous? Et quelles sont, que sont ces 10 propositions, cher Patrick?
Eh bien, alors je vous dis pas qu'elles vont être adoptées pas nécessairement par Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, hein. Mais l'exercice est plutôt de voir si elles ne pourraient pas tenter Rachida Dati ou Pierre-Yves Bournazel. Alors, prenons la première, lutter contre le système AFLNET. Alors, vous savez probablement pas, les auditeurs non plus, qu'est-ce que c'est que le système AFLNET?
Oui, tout à fait, dites-nous.
Alors, c'est le système qui impose des critères de mixité sociale dans le choix des affectations. Et cela permet de renvoyer des enfants à l'autre bout de Paris dans des lycées de quartiers dits prioritaire. Ça revient en somme à faire ce que les Américains appelaient autrefois le buzzing. Emmener les enfants dans les lycéens dans d'autres quartiers que les leurs. Sarah Knafo propose de supprimer, enfin de lutter contre ce système parce que c'est national. Alors, qu'en pensent Rachida Dati ou Bournazel? Deuxième mesure, supprimer la règle du pastillage. Alors ça non plus, les auditeurs ne doivent pas savoir ce que c'est. C'est la règle qui impose à des écoles privées d'inclure des logements sociaux, figurez-vous, dans leurs projets de réhabilitation ou d'agrandissement. Alors, je parie que vous n'étiez même pas au courant de cette règle parce qu'elle a été sournoisement introduite par la municipalité socialiste sortante sans que personne le sache.
Oui, oui, vous avez bien raison.
Eh bien, alors, donc là, qu'en pense Rachida Dati? Je crois qu'elle est plutôt pour, mais enfin, je ne veux pas m'avancer. Hein. Troisièmement, recruter des retraités, des parents d'élèves ou des grands-parents disponibles, payés à la vacation, sans le statut de fonctionnaire, pour assurer des activités périscolaires. C'est, si vous voulez, une façon de réduire les recrutements d'animateurs en qui on n'a pas confiance. Vous connaissez les problèmes qui se sont produits récemment.
Tout à fait, oui.
Et quatrièmement, supprimer le recours aux associations pour le périscolaire de façon à arrêter la propagande wokiste. Vous savez, ces gens qui viennent d'associations expliquer aux enfants que c'est très bien d'être transsexuel, oui, et autres. Oui. Cinquièmement, là, je crois que sur ce point-là, Rachida Dati est plutôt d'accord. Cinquièmement, mettre fin à la guerre contre l'école privée menée par la municipalité socialiste sortante dans le but de freiner l'extension de ces écoles, alors que ces écoles privées sont justement demandées par le public. Et par exemple, Sarah Knafo propose des implantations de nouvelles antennes d'écoles de qualité, comme Stanislas ou Saint-Jean-de-Passy, dans tout Paris, en leur vendant des locaux municipaux qui deviendront vacants du fait de la réduction des effectifs municipaux à opérer. Sixièmement, supprimer l'encadrement des loyers. Je rappelle que l'encadrement des loyers a eu pour effet de freiner les nouvelles constructions en causant des pénuries de logements. On avait supprimé cet encadrement avec la loi de 1948, dans les années 70, mais les socialistes l'ont remise. Septièmement, arrêter la course aux logements sociaux et la politique de préemption de la municipalité socialiste sortante. Cette politique, vous savez, qui consiste à acheter à tire-larigot des immeubles pour y loger des sans domicile fixe ou sans logis ou immigrés illégaux. Oui. Eh bien, cette politique ruine la ville, la met en difficulté. Au contraire, ce que propose Sarah Knafo, c'est de vendre ces logements sociaux à ceux qui voudront bien les acheter grâce à un plan d'accession à la propriété privée. Alors, je ne sais pas si Rachida Dati, elle est favorable à mettre fin à la politique de préemption. Je ne sais pas s'il est favorable à un plan d'accession à la propriété pour les locataires. Huitièmement, créer une résidence étudiante pour les meilleurs étudiants, c'est ce qu'on appelle la Villa des Talents. en partenariat avec les grandes écoles, École du Louvre, École des Chartes, Mines de Paris, Conservatoire de Paris, etc., et financement assuré par ces grandes écoles. Neuvièmement, achever la privatisation de l'enlèvement des ordures qui avait été entreprise par Jacques Chirac dans les années 80, mais c'est seulement pour une moitié de Paris, donc là, il faudrait que ça soit pour la totalité. Et enfin, dixièmement, et là je serai un peu plus long, parce que cette proposition, elle a donné lieu à des discussions. Rouvrir les voies sur berge aux voitures. Et alors, pendant des voilà ce que dit Sarah Knafo, je lis. Pendant des siècles, Paris n'avait pas de grand axe de traversée ouest-est. La ville s'était construite sur des axes nord-sud, par exemple les rues Saint-Jacques et Saint-Martin. Les embarras, comme on disait alors, les embouteillages, étaient constants, du Louvre à la Bastille. C'est d'ailleurs ainsi que Henri IV s'est fait assassiner. Ravaillac a rattrapé son cortège à cause d'un embouteillage sur la grande croisée médiévale rue Saint-Honoré. En 1967, après 1000 ans, Charles de Gaulle et Georges Pompidou décident de la construction d'une grande et belle artère permettant de traverser Paris d'ouest en est, c'est les voies sur berge. Ils règlent une problématique vieille de 1000 ans. La précédente mandature socialiste a rompu l'antidote. Méconnaissance de l'histoire de Paris ou volonté d'en faire un symbole politicien, c'est la question que pose Sarah Knafo. En tout état de cause, Paris nous montre, depuis, qu'elle avait besoin de cet axe. Les bouchons s'accumulent partout dans la capitale, les axes nord-sud se recongestionnent, la pollution sonore des klaxons est insupportable, et le grand paradoxe, c'est que la lutte contre les voitures crée des files de voitures interminables dans Paris. Par ailleurs, de nombreux parisiens apprécient aujourd'hui les promenades en bord de Seine sur ces axes. Comment ne pas les comprendre ? C'est pour cela que, c'est Sarah Knafo qui parle, nous allons sortir du faux débat dans lequel la gauche nous a enfermés, voiture ou piétons et cyclistes, comme s'il fallait choisir son camp, comme si nous n'étions pas capables de créer la solution qui conviendrait en résolvant le problème de la circulation. Fin de citation. Alors, quelle est la solution proposée par cette candidate ? Eh bien, elle dit redonner les voies sur berge aux voitures et construire au-dessus, sur lesquelles, la plus belle promenade du monde pour les piétons et les cyclistes. Les voitures auront leur axe et les cyclistes et les piétons gagneront un espace plus agréable. Voilà ce qu'elle dit. Alors, cette proposition est critiquée par Rachida Dati, qui dit qu'elle va coûter très, très cher. Elle explique que c'est à cause des piles, si j'ai bien compris, des piles des voies, de la voie express qui sont à renforcer parce qu'elles ont été abandonnées depuis des années. Alors moi, je n'en sais rien, la discussion est ouverte. Sarah Knafo soutient qu'en augmentant l'espace, plutôt que de répartir la pénurie, on permettra aux cyclistes d'avoir une piste séparée des voitures, aux touristes d'avoir un nouveau lieu à visiter, aux bouquinistes d'avoir plus de clients, mais il reste le problème du coût. Ce plan sera soumis à un référendum, d'après le programme Knafo, et ne sera pas organisé en catimini, comme l'avait fait la municipalité socialiste sortante, à l'insu des Parisiens et malgré des décisions de justice défavorables. Vous savez qu'elle avait pris cette décision de fermer les voies sur berge et la justice lui a donné tort, mais elle n'a pas pour autant abandonné. Bref, pour régler ce débat, que je ne prétends pas régler aujourd'hui dans ma petite chronique, je dis simplement qu'il faut considérer le plan des économies prévues qui sont très substantielles dans le programme Knafo. Et donc, comme j'arrive à la fin, eh bien, je vous parlerai la prochaine fois, je vous parlerai du plan d'économie, c'est-à-dire les réductions de fonctionnaires et de subventions. Est-ce que ça suffira pour faire ces travaux? Voilà, je vous laisse sur ce petit suspense.
Très bien, eh bien, merci beaucoup, cher Patrick, et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Et bonne soirée. Voilà.
À lundi.
Merci.
Au revoir, Virginie.
Merci. Nous retrouvons dès à présent François Costantini pour le Libre Journal du lundi soir. C'est tout de suite sur les ondes de Radio Courtoisie.
Chers auditeurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver avec mes deux invités. Pascal Mas, que vous connaissez, qui est conseiller diplomatique et spécialiste des BRICS, et Olivier Piacentini, que vous connaissez aussi sûrement, qui est souvent sur ses antennes, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier, La chute finale, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Nous allons aborder plusieurs thèmes. Bien sûr, le premier, le plus grave, le plus dramatique, c'est bien sûr l'assassinat de Quentin, mais dans ce journal international, nous insisterons notamment sur l'implication des réseaux européens et mondiaux, notamment des antifas de l'extrême-gauche, dans ce qui est véritablement non pas une rixe, mais un crime, et peut-être même un assassinat, puisqu'il y a eu des préméditations, peut-être des commanditaires, et en tout cas une atmosphère qui a très largement contribué à la mort et à l'assassinat barbare de Quentin. Nous évoquerons par la suite également une affaire également qui concerne un certain nombre de réseaux qui sont peut-être pas trop éloignés des antifas, c'est l'affaire Epstein, cette affaire écœurante, notamment qui voit ce qu'on a appelé la superclasse mondiale, en effet, être prise véritablement la main dans le sac, tomber le masque par rapport à toutes ces attitudes de dégradation, de viol, d'assassinat, qui témoignent véritablement la signification qu'est cette superclasse mondiale, puisqu'on voit que l'affaire Epstein a des ramifications partout, en France notamment, et jusqu'à la couronne britannique. Nous évoquerons ensuite, dans un troisième point, la situation en Iran. Va-t-il y avoir une intervention? Les États-Unis et l'Iran vont-ils trouver un accord sur le nucléaire? Ou est-ce qu'on va vers une intervention? Enfin, nous évoquerons également, concernant les États-Unis, la politique de Donald Trump et les droits de douane, avec, vous savez, l'annulation par la Cour suprême de la dernière taxation de l'administration américaine. Nous parlerons notamment des perspectives de cette politique commerciale américaine, et nous finirons avec un événement qui est un petit peu passé inaperçu, mais qui, à mon avis, ici, dans l'analyse de l'international, tient tout son sens, qui est le sommet sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu récemment en Inde, à New Delhi. Alors, sur l'assassinat de Quentin, bien sûr, comment ne pas avoir une pensée pour ce jeune homme sauvagement assassiné par des antifas, des membres de la jeune garde, dont deux assistants parlementaires du député violent, condamné, véritablement voyou que l'on connaît, qui est Raphaël Arnaud, hein, qui est quelqu'un qui est connu pour menacer, tabasser à plusieurs occasions, qui est véritablement également un protégé du monde politico-médiatique et judiciaire, puisque au vu de tous les témoignages qu'il y a eu, notamment le fait de menacer de mort Alice Cordier, de tabasser des étudiants, sa présence plusieurs fois à Paris, à Lyon, dans des opérations de tabassage, bien sûr à 1 contre 10 ou 1 contre 20, jamais à 1 contre 1, il faudra que cet individu rende des comptes, puisque je rappelle que il y a quand même une information judiciaire qui a été ouverte pour meurtre en bande organisée, notamment une association de malfaiteurs, et qu'on doit notamment remonter, à mon avis, à toutes les ramifications. La ramification, il y en a, c'est la jeune garde, bien sûr, qui elle-même est liée, vous le savez, à la France insoumise, hein. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais fait mystère, ils s'en vantent d'ailleurs aujourd'hui, hein. Je pense qu'on voit ce qu'est la gauche, c'est que la gauche n'a jamais fait mystère de sa stratégie depuis, à mon avis, 1792, depuis la Révolution française, c'est la violence, c'est la conquête des esprits de la majorité politique par la seule violence, par le meurtre, par le crime organisé et même parfois par le génocide. N'oublions pas que le mot terrorisme, le terrorisme vient de la terreur, vient directement en effet de ses inspirateurs, que la France n'est pas le pays des droits de l'homme, la France est le pays du totalitarisme idéologique et politique moderne, qui a même tourné véritablement en génocide lorsqu'on parle du génocide mondain, puisqu'il y a eu véritablement un génocide établi. Le premier qui a établi ce génocide, il faut le rappeler quand même, c'est Gracchus Babeuf, qui était un révolutionnaire, qui n'était pas quand même un contre-révolutionnaire, et qui a établi véritablement les responsabilités, puisqu'il a évoqué le populicide. Le génocide moderne est apparu en France, et tous les génocides, à mon sens, arméniens, juifs, sont plus ou moins d'ailleurs inspirés, sont des génocides entre guillemets idéologiques également, qui ont été dictés par l'idéologie des jeunes turcs, l'idéologie nazie, qui ont programmé véritablement ces génocides contre des populations qui entre guillemets les gênaient. Donc je pense que la France devait plutôt aujourd'hui avoir honte de ce qu'elle est, et c'est pas l'ambassadeur américain qui doit être, à mon avis, convoqué à Paris, c'est la France qui devrait passer aujourd'hui les responsabilités devant un tribunal pénal international puisque la France, ne rappelle pour moi aujourd'hui, porte cette idéologie. Elle porte cette idéologie destructrice, famélique, mortifère, véritablement, de destruction des esprits, et que le meurtre de Quentin n'est finalement qu'une longue chaîne de meurtres. Rappelons-nous que la Révolution française est ni plus ni moins inspirée, notamment Robespierre n'est qu'un inspirateur de Lénine. Lénine a continué à inventer le totalitarisme. Moi, j'ai rencontré il y a plus de 30 ans, 35 ans, des anciens dirigeants, notamment jeunes, des Komsomol à l'époque, qui m'ont dit pour nous, la Révolution française était la grande révolution, un modèle. Lénine est l'interprète, est en quelque sorte un interprète de Robespierre. C'est en France que le pire des totalitarismes s'est formé. Je pense que ce pays qui a muté depuis 250 ans, il faudra s'interroger sur ce qu'il est, sur ce qu'il est devenu. Je pense qu'il y a véritablement un mal français. Pour moi, la France aujourd'hui est un pays qui a connu en quelque sorte une sorte de subrogation monstrueuse au plan idéologique. Il faudra se poser la question même ce qu'est la France aujourd'hui, et même ce que sont devenus au fond d'eux-mêmes les Français dans leur mentalité, parce qu'on voit qu'il y en a quand même une majorité qui suivent l'ensemble des partis, enfin pas une majorité, mais quand même une proportion très importante qui suivent les partis de la gauche, qui sont indifférents, notamment au meurtre de Quentin, qui considèrent qu'un ennemi politique, un fasciste, que c'est qu'un fasciste? Un fasciste, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas communiste, qui n'est pas d'extrême gauche, eh bien finalement mérite le sort, mérite l'élimination physique. Alors il faut savoir en effet que cela remonte en France à loin. Le Parti communiste dit français créé en 1920 a commencé déjà par des assassinats à rue d'Henri-Raymond en 1923. Ils assassinaient 7 jeunes militants nationalistes, des jeunes patriotes, gratuitement. Le Parti communiste est un parti d'assassins à l'origine, puisqu'il a commencé par le meurtre, la violence, etc. Et il a continué là-dessus. En regardant un petit peu les archives, j'ai été bouleversé de voir l'affaire d'un jeune enfant en 1937 qui vendait des carnets, notamment des timbres, pour la fête de son école, d'une école catholique, qui a été tué et mis à mort par une dizaine d'enfants, il avait 7 ans, hein, qui avait 8 à 12 ans à la Croix-Rousse, d'enfants de communistes, en souvent, et on lui a dit « ton père est un croix de feu, tu es dans une école catholique, tu mérites de mourir ». Et tout ça, c'était un petit Quentin à l'époque, et on voit que quelles abominations est véritablement capable de la gauche au plan historique. Alors, la notion d'antifascisme, il faut savoir qu'elle a été créée par la gauche et même par Staline. C'est-à-dire que l'antifascisme sert notamment à créer le Front Populaire, alors qu'il n'y a aucun danger fasciste en France. Staline donne des ordres, notamment, et fabrique de toutes pièces le concept d'antifascisme qui était porté par le Parti communiste. Et l'affaiblissement du Parti communiste historique fait qu'aujourd'hui, c'est l'extrême-gauche, notamment, qui a repris véritablement tous les oripeaux du Parti communiste. Et en effet, le NKVD, même plus tard après la guerre, dans les années 50, va fabriquer le concept d'antifascisme. Par exemple, va notamment accuser toutes les révoltes des peuples contre le communisme en RDA, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, de fascistes. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas communiste est obligatoirement fasciste. Par cette espèce notamment de sémantique, aujourd'hui même reversée, parce qu'on a tendance à dire que les antifascistes sont les fascistes. Non, les antifascistes sont tout simplement des communistes, des gauchistes, des gens d'extrême gauche notamment, des gens extrêmement malveillants, mortifères, assassins, et que ce ne sont pas les héritiers du fascisme, ce sont les héritiers d'une idéologie de gauche, d'extrême gauche, qui aujourd'hui assassine dans les rues de Lyon. Donc il faut également renverser un certain nombre de sémantiques. Je rappelle à Lyon également, on l'a oublié, c'est qu'il y a eu un seul mort à mai 68, c'est un commissaire de police qui a été lynché par les amis de Cohn-Bendit. On oublie ça aussi. La gauche bénéficie également d'un accès aux médias, à la propagande officielle, à la culture, qui interdit en effet toute vérité. On le voit aujourd'hui, hein, tous les médias, à part ceux du groupe Bolloré, entre autres, et Radio Courtoisie, bien sûr, il faut se féliciter encore d'avoir encore Radio Courtoisie, mais tous les médias, notamment ceux qui sont payés par nos impôts, ont un compte-rendu de l'assassinat de Quentin tout à fait détestable. On nous parle en fabriquant même des choses, en effet, par un mensonge grossier, puisqu'on nous dit qu'il y a eu un signalement. Par exemple, je prends un tout petit exemple, hein, quelque chose qui est vraiment une minuscule affaire, c'est qu'il y aurait eu un salut nazi prononcé, mais on oublie de dire que le salut nazi a été fait face à un rabbin et quelqu'un qui a créé Vive Palestine. Et je ne pense pas qu'en effet, ce type d'individu détestable appartenait au cortège de Quentin. On voit à peu près quels sont probablement les origines, les orientations politiques de ce type d'individu. Donc encore une fois, même on essaye de renverser, même quand on a la turpitude, eh bien, on renverse le roman, on renverse le récit, et la gauche en est là. Je crois que nous payons aujourd'hui ce que la gauche fait depuis 2 siècles et demi, depuis 1945 où on lui a donné véritablement le pouvoir éducatif, culturel, médiatique en France, eh bien elle continue aujourd'hui. La mort de Quentin aujourd'hui est traitée d'une façon banalisée, voire méprisante par la plupart des médias, et c'est tout à fait détestable. Alors cette internationale antifa, elle a des ramifications partout. Elle est très présente aux États-Unis, elle remonte à loin en Europe, souvenons-nous notamment des années de plomb en Italie, hein, avec les Brigades Rouges qui ont assassiné même le futur président du Conseil Aldo Moro, en Allemagne avec la bande Abader qui assassinait de partout, et on sait très bien notamment que le KGB était plus ou moins derrière, tirait les ficelles de l'extrême gauche pour opérer une déstabilisation de l'Occident, et on les voit aujourd'hui présents aux États-Unis. Alors, qui sont-ils ces Black Box, ces Antifa? Ce sont des gens qui se battent à 1 contre 10, contre 20 et contre 50. Et comme on l'a vu, notamment ceux qui ont été arrêtés, qui ont été mis en détention provisoire dans le meurtre de Quentin, ce sont tous des fils de la bonne bourgeoisie lyonnaise. Hein, fils de magistrat, fils de cinéaste, fils de haut fonctionnaire, qui ont fait des écoles de commerce. Ce ne sont pas des fils de prolétaires. Ils ont frappé Quentin, qui lui était d'origine modeste. Je rappelle, avec une mère péruvienne. Hein, c'est le crime raciste, il est peut-être là aussi également. Hein. C'est ce mépris de classe peut-être également, cette haine de soi qui explique aujourd'hui l'idéologie mortifère des antifas. Alors, on l'a vu partout, notamment l'extrême gauche relayée, et puis on la voit également aux États-Unis. Je pense que l'idéologie antifa aujourd'hui provient en bonne partie des États-Unis. C'est pas pour rien qu'elle a été classée organisation terroriste, mais elle sert aujourd'hui. Elle a servi contre Donald Trump. Elle sert contre Donald Trump. Et heureusement, l'administration Trump commence à lui porter des coups. Elle a sévi dans les campus. Elle sévit un peu partout par un certain nombre, notamment de relais, y compris à l'aile gauche du Parti démocrate. Il y a aujourd'hui des gens qui sont ouvertement des supporters des antifa. Je pense que les antifa ont également porté à la mairie de New York, Zohran Mamdani, qui est un islamiste radical convaincu, et qu'il a été également aidé par cette idéologie d'extrême gauche, puisque l'antifa, c'est l'idiot utile qui va s'appuyer notamment sur l'immigration, sur la submersion migratoire, et notamment sur les éléments islamistes parmi ces flux migratoires. Et en quelque sorte, ils jouent le rôle du dieu utile, de destructeur de la société, puisque n'oublions pas que les antifas sont également des gens qui font la promotion du wokisme, de l'idéologie LGBT, et sont atteints de ce que j'appelle un palestinisme aigu. Et notamment, il y a cette intersectionnalité des luttes dans lesquelles ils sont les éléments les plus déterminés, les plus violents, et souvent, et parfois même, comme on l'a vu, les éléments meurtriers, chargés de passer au meurtre, puisque je pense que les antifas, délibérément, veulent arriver à des meurtres. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres Quentin, mais il faut s'attendre également à ce qu'il y ait d'autres meurtres, d'autres prises à partie, puisqu'on sait que la mort de Quentin n'a pas arrêté les antifas. Il y a eu des jeunes à Bordeaux, il y a eu des jeunes à Rennes qui ont été attrapés, frappés, notamment par des antifas, en rentrant paisiblement des manifestations en hommage à Quentin. Donc il faut craindre particulièrement notamment ces réseaux mondiaux, et savoir également qu'ils sont aidés. Ils sont aidés par des officines mondialistes, et on sait qu'un grand financeur d'Antifa notamment, ce sont les réseaux Soros, puisqu'un certain nombre d'officines qui sont liées aux Antifa sont directement financées par Soros, avec toujours le même mobile, notamment la destruction des sociétés occidentales. Donc en France également, il faut craindre également cette propagation de l'idéologie Antifa, qui est une idéologie en général qui vient de la bourgeoisie, qui vient non pas de la bourgeoisie productive, mais la bourgeoisie, disons, qui vit en quelque sorte en parasite sur la société, c'est-à-dire un certain nombre de hauts fonctionnaires, un certain nombre de personnes dites du milieu culturel, du milieu associatif ou para-associatif, qui souvent est grassement subventionné par l'État. Il faut se poser la question en France, d'ailleurs, dans un pays où on a un taux de prélèvement obligatoire qui atteint les sommets, de savoir pourquoi, en effet, depuis 80 ans, on subventionne tout en effet un pan notamment de la société qui vit grâce à l'argent public. On pourrait parler également des médias, du service audiovisuel public, mais également plus loin, on l'a vu à Sciences Po, puisqu'on a vu deux professeurs de Sciences Po de façon abominable, hein, un professeur bacateur de physique et un d'économie, dans une boucle, se réjouir de la mort de Quentin et la justifier. Dans n'importe quel pays, ça vaudrait la révocation et la mise en prison, je peux vous le dire, dans n'importe quel pays. Il n'y a qu'en France où ces gens-là, en effet, bénéficiant de soutien, notamment dans la justice, hein, on pense au syndicat de la magistrature, entre autres, qui a toujours montré sa mansuétude vis-à-vis de ce genre de délinquants ou de criminels. Donc on est véritable d'un système où l'antifa en véritable est quelqu'un qui supporte le système. Enfin, l'antifa, il ne faut pas l'oublier, c'est celui qui joue le rôle d'idiot utile de fractionnement de la société, qui joue, eh bien, on nous apprend que Macron, comme par hasard, au lieu de réagir contre la jeune garde, eh bien, il assure, il nous annonce notamment une réunion à Matignon, non pas pour s'occuper des antifas et des crimes qui viennent de commettre, mais non, au contraire, on va dissoudre deux organisations de jeunes identitaires, une paraît-il à Albi et une à Montpellier, pour montrer que c'est pas eux le problème. Donc tout ça participe également au fractionnement de la société, et les antifas jouent un rôle beaucoup plus central. C'est pour ça, à mon sens, malheureusement, je pense que j'ai des craintes que l'histoire n'ira pas plus loin, alors que normalement, le meurtre de Quentin aurait dû faire tomber et ébranler tout un système, c'est-à-dire bien sûr la jeune garde, mais également son soutien, son socle politique, qui est la France insoumise, et puis également, allons plus loin, ceux qui ont bénéficié du soutien de la France insoumise. Je rappelle quand même que la jeune garde faisait partie de la kyrielle d'association qui était inscrite sur les professions de foi du Nouveau Front Populaire, et que M. Hollande, qui aujourd'hui joue les mères la pudeur, avait notamment sur sa profession de foi, la preuve est là, hein, on a les preuves, le nom de la jeune garde. Ces gens-là, notamment, se sont bien gardés à l'époque de rejeter Arnaud, sa bande de voyous, et la jeune garde. Donc c'est dire si les antifas sont également incrustés en quelque sorte dans le système français, européen et mondial. Donc en effet, il y a tout à craindre, notamment de ces réseaux qui, au plan mondial, en effet, ce sont pas en effet un certain nombre d'excités en France qui ont assassiné Quentin. Hein. Ce sont des gens qui sont dans leur organisation, qui sont structurés, organisés, qui obéissent à des mobiles politiques, en effet, qui leur sont dictés. Et qui trouvent également leur justification, entre guillemets, dans un climat de violence qui en quelque sorte a été visiblement cette atmosphère de criminalité qui a régné et qui a abouti au meurtre tragique de Quentin. Alors pour venir à ces antifas, ces ramifications, pensez-vous, Pascal Mas, que nous sommes véritablement face à un hydre dont on a peu de chance de couper toutes les têtes et que nous sommes en train de subir véritablement ce qu'on appelle une logique antifa d'atmosphère?
Alors, je voudrais déjà revenir sur quelque chose. Ce que nous vivons aujourd'hui, bien que prenant racine dans les théories de Trotsky, n'est pas du tout la même chose que le terrorisme des années 70 en Allemagne, Italie. Parce que la fraction armée rouge, les brigades rouges et Action Directe, ils avaient pour objectif avoué de détruire le système capitaliste, pas pour détruire la société. Ils ont, avec bien sûr des attentats épouvantables qui illustraient bien leur détermination. Vous avez cité Aldo Moro, il y avait aussi Georges Besse pour la France et Hans Mort.
1986, président de Renault.
De Renault, voilà.
Tué parlante par Nathalie Maïgon et Joël Aubron, voilà. Commandité par Jean-Marc Rouillon, qui croule des jours paisibles du côté de Bordeaux, faut le dire aujourd'hui, voilà.
Et puis le Hans-Martin Schleyer, qui était
patron allemand.
Voilà, un industriel et patron des patrons allemands. Donc c'était vraiment détruire le système capitaliste. C'était bien entendu, vous l'avez souligné, encouragé par l'URSS, à travers différents moyens, y compris en matière de diffusion, la propagande du Parti communiste français et la CGT.
Bien sûr, la CGT qui a pratiqué l'intimidation, la violence depuis son existence, il ne faut pas oublier non plus. Rappelons également que la CGT, il y avait eu une commission d'enquête, notamment sur le financement des syndicats, et un rapport qui avait été sorti, le rapport Perruchot, et que ce rapport n'était pas sorti parce qu'un comité secret, vous savez, de l'Assemblée nationale, à la majorité, peut décider sa non-diffusion, et que sa diffusion, c'est une peine de prison lourde.
Exactement.
Et c'est pour ça que je crains au passage, d'ailleurs, on est dans l'audiovisuel, que la commission, notamment sur l'audiovisuel public, connaissent le même sort, qu'on enterre également au passage, en dépit du talent et du courage grandiloquent du jeune député UDR Charles Allon, qui a bien que tout ce beau monde, en effet, qui va de l'extrême gauche à la Macronie, eh bien, finalement, n'est pas de compte à rendre, notamment sur toutes les turpitudes actuelles du service audiovisuel public, qu'il s'agisse de la propagande d'extrême gauche ou également de ce qui s'apparence à des détournements de fonds publics, puisque je rappelle que la présidente de France Télévisions a été mise en examen pour détournement de fonds publics.
Alors, je voulais continuer sur cette affaire, c'est que les terroristes des années 70, payés par l'URSS indirectement, avaient quand même pour fondement un fonctionnement stalinien. Là, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, ce sont des vrais trotskistes. Moi, ça fait des mois que je dis, mais bon sang, mais vous n'avez pas remarqué que c'était ça, y compris dans la dialectique, y compris dans la gestuelle. Quand je voyais encore Manon Aubry ce matin, c'était un monument, c'était un cours de trotskiste, d'expression trotskiste en direct. Eh bien, là, c'est pas pareil, parce que eux, ils veulent détruire la société, ils veulent faire la révolution permanente, et c'est pourquoi on retrouve du même côté l'extrême gauche américaine et une gauche française, y compris la CGT, bien sûr, faut pas les oublier, qui se retrouve dans le même camp, pour des raisons tout à fait différentes. Donc, par contre, la violence, c'est quelque chose qui est induit. Parce que comme je vous disais, moi je suis un bon connaisseur de Trotsky. Ça ne veut pas dire que j'adhère, hein, rassurez-vous. Mais
il faut savoir connaître son ennemi. C'est
voilà,
certain.
Pour mieux le combattre, il faut savoir bien connaître son ennemi. Donc la dialectique trotskiste et surtout la méthode, celle qui est employée par la LFI aujourd'hui et par ses...
Rappelons que Mélenchon est un ancien trotskiste.
Oui, mais dans l'époque lambertiste, c'est pas pareil. Bon, là, on revient à l'origine, c'est-à-dire, comme je vous le disais précédemment, il y a un petit livre que je recommande qui s'appelle « Leur morale et la nôtre ». Alors, c'est sorti en 1938 contre ce qui était au Mexique et ça a été diffusé à partir de 1939 ici en France et dans le reste du monde. Et là, vous avez exactement le programme, la méthode trotskiste qui est mise en œuvre aujourd'hui par tous ces mouvements. Que ce soit les mouvements extrémistes américains, on l'a vu à Minneapolis, et que ce soit en France avec la LFI, avec autrefois d'autres mouvements grecs, italiens, qui étaient aussi brutaux et tout ça. Et donc ce petit livre, alors c'est bien parce qu'on peut le télécharger. Il est plus édité évidemment, mais on peut le télécharger donc facilement. Ça s'appelle « Leur morale et la nôtre » par Léon Trotsky. Et bon, et donc ce petit livre, pourquoi je le recommande, je viens de le dire, c'est parce qu'on y trouve tout. Je disais dernièrement à une autre antenne, je dis « ça ». C'est la même chose que Mein Kampf. Tout est écrit dedans. Après, il ne faudra pas dire qu'on n'était pas au courant. C'est exactement, c'est le manifeste du trotskisme de la révolution permanente et internationaliste de Léon Trotsky en 38. C'est une sorte de testament. Alors, tous ces autres bouquins sont illisibles, mais celui-ci, il est fondamental. Et c'est l'un des derniers, je crois que c'est l'avant-dernier. Donc, il faut bien voir, on sait d'où ça vient, on sait quelle est l'idéologie que ces mouvements portent, et on sait d'où elle vient. Donc, il suffit maintenant de la combattre, parce que c'est pas le tout. De dire, oh, c'est faire des marches blanches et tout ça, c'est bien gentil, mais si on ne les combat pas maintenant, ça donne les SA. Et les méthodes employées à Lyon ou dans d'autres endroits, ce sont des méthodes de SA.
Bien sûr, c'est-à-dire que les SA qui étaient quand même, je tourne avec Ty Logan, les sections d'Hitler, qui avaient pour but de prendre la rue, d'intimider, de violenter et parfois d'assassiner.
Naturellement.
C'est-à-dire c'est la même chose. D'ailleurs, rappelons quand même que dans la nationale socialisme, il y a quand même un vocabulaire qui prend au marxisme, même s'il est à contrario, etc. Rappelez-vous que Hitler s'oppose à ce qu'il appelle la réaction, c'est-à-dire même une société nationale conservatrice ne lui convient pas, et il faut passer par la révolution dans la rue, c'est bien évident. Le national-socialisme emprunte à la matrice du marxisme, même s'il rejette catégoriquement le marxisme pour d'autres raisons, même s'il est une antinomie, il a quand même des familiarités, des singularités, notamment dans la prise du pouvoir, le marxisme, le caractère totalitaire, le génocide qui va s'en produire, emprunte à la doxa marxiste.
Et n'oublions pas quand même l'épisode précédent de 1922, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Mussolini et des fascistes, les vrais fascistes. Parce que moi, quand j'entends dire comme ça, machin est un fasciste et tout ça, je pense aux générations qui ont connu cette époque, qui ont bu de l'huile de ricin, qui ont été torturés par ces gens-là, par les chemises noires de Mussolini. Qu'est-ce qu'ils doivent penser? On dit comme ça, on lance des mots comme ça, fasciste, nazi, je sais pas quoi. Quelle valeur ça peut
avoir?
Rappelons
également la thèse de l'écrivain britannique, la thèse d'écrivain franco-israélien Zev Sternel, notamment sur la droite révolutionnaire, le faisceau de Georges Valois, qui est un homme d'extrême gauche, et Georges Valois prône notamment la violence. Georges Valois, puis Georges Sorel également, sont des gens qui viennent de l'extrême gauche, qui ensuite vont caractériser en quelque sorte le fascisme, hein, le faisceau de Georges Valois, qui est un mouvement en effet qui est calqué sur le fascisme italien, qui sont des gens qui viennent de l'extrême gauche, ne l'oublions pas. Il puise à la logique, à la doxa de l'extrême gauche et du marxisme.
Et nous n'avons pas assez d'une heure et demie pour citer tous les gens venus de la gauche et de l'extrême gauche et qui se sont accommodés à Vichy.
Tous les mouvements fascisants collaborationnistes à Vichy, je dis tous, sans exception, c'est Jacques Doriot, Marcel Déat, Clémenti, Gaston Bergerie, sont tous des gens qui viennent de la gauche et de l'extrême gauche, sans exception. Voilà. Olivier Piacentini, votre point de vue justement sur l'international antifasciste, sommes-nous en présence d'une internationale antifascisme? Quels sont ses dangers, ses réalités aujourd'hui alors?
Il y a évidemment une internationale antifasciste de gauche ou d'extrême gauche, c'est l'évidence même. Et alors elle a muté effectivement par rapport à la période des années 70 où il y avait une internationale terroriste en Europe, en Belgique avec les CCC, donc on l'a dit, les fractions armées rouges en Allemagne, voilà, en France Action Directe, et évidemment en Italie les Brigades Rouges. Alors ça a muté, ce ne sont plus des mouvements terroristes, ce sont des mouvements d'agitation et d'intimidation. Et pourquoi, selon moi, ça a muté de cette manière-là? Eh bien parce que dans l'intervalle, au cours des 40 années qui nous séparent de la période de ce terrorisme gauchiste, eh bien, il y a eu une avancée de l'infiltration du monde trotskiste, des personnalités trotskistes, au sein de toutes les antres du pouvoir en France, par exemple, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Mélenchon, un ancien trotskiste, Jospin, qui est un ancien trotskiste chargé, je dirais, d'infiltrer le Parti Socialiste, et bien d'autres, hein, Julien Drey, on parle même de Kouchner, etc. Bon. Donc il y a eu cette infiltration typiquement trotskiste, effectivement théorisée par Trotsky, qui expliquait qu'il fallait en fait ronger le système de l'intérieur, et également une deuxième inflexion qui est une mutation idéologique, c'est-à-dire qu'on est passé d'une lutte ouvriériste, où c'est l'exploité qui est la victime, à une lutte, je dirais, raciale, de minorité. Où c'est aujourd'hui le racisé ou le sexué, je ne sais pas trop comment dire, enfin les minorités sexuelles qui également sont présentées comme, je dirais, des victimes éternelles et que l'extrême gauche est censée défendre. Je ne suis pas persuadé que dans le deuxième cas ce soit vraiment l'idéal de le faire avec tout un bataillon de musulmans derrière. Bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 40 dernières années? Eh bien, on a vu cette extrême-gauche prendre le pouvoir dans les médias. Et je me rappelle, par exemple, au moment des affaires de Vaquet, des fameuses manifestations.
J'ai vécu de près en tant qu'étudiant et j'ai même été menacé de mort par les étudiants de gauche, y compris même des gens qui étaient au Parti Socialiste à l'époque, qui étaient à l'UNFID, qui étaient des trotskistes, parce que j'avais refusé notamment qu'on mette des barricades, qu'on nous empêche d'aller travailler à la Sorbonne, et que j'avais, avec des amis, défoncé des piquets de grève. Voilà, ça, je m'en souviens.
Exactement.
C'est là que j'ai vu, en 86, toute la perversité, la violence, notamment, de la gauche. L'extrême gauche, pas seulement l'extrême gauche, hein, puisqu'il y avait également le Parti Socialiste qui était à la manœuvre à l'époque.
Ah oui, ils étaient tous de concert. Et alors, à l'époque, c'était Jean-Michel Apathy, avec Isabelle Thomas, qui faisait la tournée. Moi, à l'époque, j'étais au lycée Paul Valéry, en classe préparatoire à grandes écoles. Et on a vu débarquer Isabelle Thomas et Jean-Michel Apathy. Et les deux ont fait carrière. L'une comme députée du PS, et l'autre, évidemment, sa brillante carrière médiatique. De même, l'agitateur Cohn-Bendit, pédophile assumé, trône sur les médias français depuis 40 ans, sans que personne n'ait jamais osé lui rappeler.
Et qui était en mission commandée en mai 68, ne l'oublions pas, pour détruire la société française.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que mai 68 porte une responsabilité très essentielle, à mon sens, dans la destruction notamment des fondamentaux de la société, de la civilisation française.
Bien sûr, pédophile assumé. Alors, derrière, je dirais, ce noyautage médiatique, on trouve également un noyautage universitaire avec tout un tas de professeurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les seuls qui ont leurs entrées dans les facultés, eh bien, ce sont les gens de LFI. Les autres n'y ont pas accès, y compris d'ailleurs François Hollande, qui avait été expulsé d'une conférence qu'il devait tenir à l'Université de Lille en 2019. Madame Agazinski à Bordeaux.
Épouse Jospin.
Alors peut-être qu'on a voulu faire payer, je dirais, la trahison de son mari, hein, aux idéaux trotskistes. Et donc, moi, j'ai côtoyé pas mal d'étudiants, de jeunes étudiants de droite, lors de, je dirais, de conférences que j'ai tenues, qui m'ont tous parlé d'un climat d'intimidation, de brimade dans toutes les facultés. Personne ne les écoute. Ils se retournent vers, je dirais, la direction, le rectorat, etc. Personne ne réagit. Il n'y a jamais personne qui réagit, tout simplement parce que le système est vérolé de l'intérieur. Vérolé de l'intérieur. Et donc aujourd'hui, ce sont de véritables meetings politiques qui se tiennent dans les facultés de LFI, personnalités LFI, Rima Hassan, Loïc Caron, Lou Boyard, etc. Bien, et entourés de toute une camarilla de jeunes gardes, de militants antifascistes, etc., qui intimident tout le monde et qui veulent imposer leur discours. Il y a le fameux professeur Balanche qui a été interdit de faire des cours. On décide comme ça, et puis personne ne peut rien faire, personne ne peut rien dire, tout simplement parce que de l'intérieur, il n'y a pas la volonté. Au niveau de la magistrature, même topo. Et on le voit à travers, par exemple, les arrêts du Conseil d'État. Les OQTF, les expulsions d'OQTF sont quasi systématiquement recalées. Le fameux épisode du mur des cons a bien montré que plus de 40% des magistrats sont carrément noyautés par la gauche. Et puis, je dirais que même la forme, c'est-à-dire que cette affiche avec ces visages des personnalités de droite qui reçoivent des fléchettes, ben, ça démontre bien une caractéristique de l'extrême gauche, c'est l'intolérance.
L'intolérance, le refus de faire violente le débat. Et criminelle.
Voilà, intolérance, violence, crime. On empêche le débat en diffamant les personnes qui osent s'opposer. Et effectivement, moi je pense que c'est à la fois trotskiste et stalinien, mon cher Pascal, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vraiment... J'ai toujours dit, il y a une différence entre les dictatures de droite et les dictatures de gauche. Les dictatures de droite, je mets à part le nazisme, hein, peut-on la considérer comme ça, il suffit de fermer sa bouche et on est à peu près tranquille. Il suffit de rien dire. Bien. Avec les dictatures de gauche, c'est très simple. Il faut prendre le drapeau et marcher dans les rues avec enthousiasme derrière les causes. Sinon, on est traité, par exemple, si on ne met pas le drapeau LGBT, ben, on est homophobe. Si on ne met pas la main SOS racisme, si on ne s'agenouille pas devant Floyd George, ben, on est raciste. Je veux dire, il faut en permanence épouser avec enthousiasme et, je dirais, avec ardeur, les causes qu'on nous met. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, mais moi, je suis indifférent. On l'a bien vu, par exemple, lors des manifs pro-palestiniennes de sciences politiques. Bon, ben, celui qui est indifférent, qui dit, ben, moi, je m'en fous, alors bon, c'est pas ma priorité, c'est mes études, etc. Ben, voilà, c'est un sioniste. Systématiquement. Et il est violenté pour tel. Donc, je peux vous raconter quand même une expérience que j'ai vécue. Pour vous décrire ça. J'ai passé 3 semaines à Cuba, il y a plus de 30 ans. Non, pas 30 ans, 26 ans, pardon. Et j'allais avec un ami chez l'habitant. C'est-à-dire que j'étais pas Veradero dans un camp de vacances. On partageait la vie des habitants. Bien. Et on s'était retrouvés dans une maison à La Havane, occupée par des infirmiers. Et puis il y avait la vieille grand-mère au milieu et compagnie. Et c'est tombé précisément au moment de l'anniversaire, le 40e anniversaire de la révolution cubaine. Eh bien, lors du discours de Castro, j'ai assisté à ce discours depuis la résidence des personnes qui avaient la gentillesse de nous accueillir. Eh bien, je peux vous dire que toutes les maisons avaient les fenêtres ouvertes et les gens devant le poste de télévision qui se montraient en train de regarder le discours. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de ne pas faire d'agitation, de rien... Il faut se montrer, il faut montrer qu'on est un inconditionnel des discours fleuves de M. Castro, qui d'ailleurs ce soir-là avait annoncé que Cuba avait dépassé la Hollande pour la production de viande, je peux vous dire que la tête des gens chez qui j'étais, je vous laisse imaginer. Hein, bon. Et donc, on est sommé d'être enthousiaste et de suivre les consignes et l'idéologie en toute occasion. Sinon, ben, immédiatement, c'est social traître, petit bourgeois, réactionnaire, fasciste, homophobe, raciste, etc. Tout y passe. Voilà. Et ça, c'est à mon avis une grosse différence entre la droite, même la droite la plus dure, et l'extrême gauche, qui, tu l'as dit tout à l'heure, mon cher François, et c'est un peu dans ses gènes depuis la Révolution française, puisque même pendant la Terreur, la Révolution française, combien d'innocents ont été massacrés, combien de gens qui n'étaient même pas des contre-révolutionnaires, qui se trouvaient juste là, ou effectivement n'étaient pas embarqués avec les gens de la Terreur. Donc voilà, je pense qu'il y a une grosse différence, encore une fois, entre ces deux cadres dictatoriaux.
Merci Olivier Piacentini, nous laissons passer un bobino et nous reprenons le fil de notre journal de l'International.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis, nous reprenons justement notre débat sur l'international Antifa. Pascal Mas, vous souhaitez rajouter?
Oui, sur ce que, le brillant exposé que vient de faire Olivier Piacentini, je voudrais rappeler aussi que le système de la révolution castriste est fondé aussi et repose sur les comités de surveillance de la révolution, c'est-à-dire des soviets de quartier, de gens qui sont chargés de surveiller les autres, et donc aboutir aux résultats que vous avez exposés avec, avec une liberté et une réalité que je ne peux nier. Donc c'est comme ça, les régimes proto-soviétiques, c'est comme ça, il y a toujours des gens pour vérifier, pour surveiller. Et c'était même valable pour Tito, hein. Faut pas dire que Tito était un brave type. C'était la même chose dans les années 47-48. Il fallait, bon, je vous parle pas d'Enver Hoxha, de Mao Tse-Tung, de Pol Pot et compagnie.
Ceausescu.
Bien sûr. Ah, c'était pas mal non plus. Mais donc, voilà. Donc, il est interdit de penser autrement que selon la ligne du parti. On a entendu ces mots-là aussi, place du colonel Fabien, si vous en souvenez. La ligne du parti. Donc les camarades, vous devez faire ça, que vous soyez dans une usine, que vous soyez dans un bureau, etc. La ligne du parti est prioritaire. Bon, il y a d'autres dictatures, on parlera peut-être de l'Iran tout à l'heure, qui utilisent la même chose, hein, c'est-à-dire des milices pour contrôler la population et une pensée unique à laquelle on ne peut déroger sous aucun prétexte.
Alors Olivier Piacicide souhaitait rajouter avant qu'on passe au débat suivant.
Oui, absolument. Vous savez, moi, les politiques, j'écoute pas. J'écoute plus vraiment ce qu'ils disent. Je regarde ce qu'ils font. Vous voyez ? Par exemple, Macron, bon, bah, qui est censé être de droite, à un moment donné, on lui expliquait qu'il était de droite.
Non, il est pas de droite, il vient du Parti Socialiste.
Il y a des gens qui disaient ça. Bien. Et bah, quand on voit l'anarchie qu'il y a en France, l'insécurité, l'immigration, les dettes, les déficits, aucune rigueur dans la gestion, je vois pas en quoi il est de droite. On pourrait dire qu'il est plutôt d'extrême gauche au vu des résultats qu'il a produits. Bien. Qu'est-ce qu'on observe concernant LFI ? Eh bien, LFI, Mélenchon, parle d'une sixième république plus démocratique, où le peuple va avoir, je dirais, son droit de parole et son droit de regard, et les lourdeurs et l'aspect pyramidal de la cinquième république va disparaître, et M. Mélenchon nous garantit qu'il va s'en aller, une fois qu'il aura fait passer la sixième république, s'il est élu président, bien entendu. Bien, mais qu'est-ce qu'on voit à la tête de LFI ? Ben, on voit un truc extraordinaire. Il n'a jamais été élu président de LFI.
LFI n'a pas de structure, notamment qui existe. On pourrait d'ailleurs se poser la question du fait que LFI bénéficie du financement public alors que normalement il ne répond pas à ces critères. On pourrait d'ailleurs engager peut-être il faudrait voir l'opportunité d'engager des actions judiciaires justement auprès de la commission des comptes de campagne pour faire en sorte justement que LFI, savoir si LFI répond ou pas justement aux critères de financement des partis politiques, puisque ça ne me semble pas avoir une organisation notamment de partis politiques.
Absolument.
Je rappelle que tous les partis politiques aujourd'hui sont démocratiques, tous, même le Parti communiste, tous les partis, le Rassemblement national, il y a une élection au sein de la présidence
bien
du
sûr.
Parti, tous les partis sont démocratiques.
À la preuve.
Chez LFI, il n'y en a pas. Voilà.
Il n'y en a pas.
Qui est président de la commission des finances à l'Assemblée ?
Coquerel.
Éric Coquerel, voilà.
Tiens donc.
Grâce à la Macronie et également à une lâcheté d'une partie de la droite.
Au fameux front pseudo-républicain. Bon. Tous les cadres de LFI, que que vous voyez pavaner sur les plateaux et vociférer, aucun n'a été élu. Ils sont imposés par Jean-Luc Mélenchon et balancés comme ça. Au niveau du programme ou des grandes orientations, eh bien, il faut voter en bloc, oui ou non. Il n'est pas question d'amender, de discuter tel ou tel point, c'est oui ou non. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de débat qui porte sur des points spécifiques, c'est oui ou non. Bien. Et par ailleurs, puisqu'on parlait de Castro, eh bien, il suffit de relire le merveilleux hommage grandiloquent que Mélenchon avait réservé à son ami Fidel Castro lors de sa mort. Et de la même manière, rappelez-vous, je dirais les louanges pour Chavez et la révolution bolivarienne, et tout s'est arrêté le jour où on a vu le pays s'effondrer économiquement, puisque le Venezuela, c'est très simple, il y a du pétrole mais il n'y a même pas de lait dans les boutiques, il y a la monnaie ne vaut plus rien, et là tout d'un coup il y a lâchage, alors on parle plus du Venezuela chez Mélenchon, et Mélenchon s'en est pris à essayer d'intimider des journalistes et même des Français qui l'interrogeaient lors d'une émission à chercher à les intimider quand ils ont essayé de lui rappeler, je dirais, sa proximité avec ce régime. Et il y avait une forme d'intimidation de tous les cadres, Quatennens, Obono, etc. Chaque fois qu'on parlait de ça, on dirait qu'il fallait intimider les journalistes. C'est un parti qui ne marche que sur la diffamation et l'intimidation et qui refuse le débat démocratique construit, argumenté.
Rappelons que Mélenchon, hein, on terminera là-dessus, est quelqu'un pour connu, pour d'ailleurs, oh, pas quand vous êtes seul à seul, mais quand il y a ses gardes du corps avec lui, pour vous insulter, vous intimider. Moi, oui. Des gens qui ont été au Parti Socialiste, même qui sont toujours, m'ont toujours dit qu'au sein du Parti Socialiste, il a toujours utilisé la violence, la menace, l'intimidation. Pas quand on est face à lui seul, enfin un café, ça certainement pas, mais quand il a des sbires autour de lui, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé de façon la menace, l'utiliser la violence, qui a toujours fonctionné de cette façon, il faut savoir. Alors, je lis une question là d'un auditeur qui nous dit « L'assassinat de Quentin permet aussi de ne pas parler des scandales autour de l'affaire Epstein et de leurs plus que probables conséquences sur les actions de ceux qui sont pris la main dans le sac, ce qui ne se limite pas à une petite... optimisation fiscale. La jeune garde a rendu un immense service au régime en occupant le temps médiatique, le temps que l'on puisse oublier le Jack et les autres, et tous les chantages possibles qui profitent aux puissances étrangères. Bien cher auditeur, je vous dis que non, puisque nous allons parler justement aujourd'hui de l'affaire Epstein, qui n'est pas sans ressemblance avec notamment l'international Optifa, puisque elle concerne véritablement la nébuleuse aujourd'hui de ce qu'on appelle la superclasse mondiale. Hein, cette classe, on a faim de dirigeants politiques, mais pas seulement, hein, de stars médiatiques, d'influenceurs, un peu partout, et puis on voit que, notamment dans les mails, un certain nombre de personnes sont mouillées. Alors on a vu, là, le prince Andrew, l'ex-prince Andrew également emprisonné, ce qui en dit long d'ailleurs sur ce qu'est devenu la couronne britannique. Je rappelle quand même que la couronne britannique, qui est inondée depuis pratiquement 30-40 ans par les scandales, y compris les moins reluisants, pratique aujourd'hui également le politiquement correct. Je rappelle que le prince Charles et puis l'héritier William et son épouse se rendent régulièrement à des cérémonies du Ramadan et ferment totalement les yeux devant les scandales les plus abjects qu'on a en Grande-Bretagne, notamment les gangs pakistanais qui ont violé et certains qui ont assassiné même des jeunes filles d'origine britannique de souche. Il y en a même une, je rappelle, qui a été tuée, violée, assassinée, découpée et transformée en kebab. Hein, il faut quand même ça a été passé sous silence. Et moi, je me rappelle du roi, notamment Albert II de Belgique, qui enfin s'était élevé lorsqu'il y avait eu l'affaire du trou, etc., qui avait pris la parole. Et là, on n'a jamais entendu le roi d'Angleterre, qui s'occupe plus d'ailleurs des légumes en voie de disparition, peut-être que de la survie, notamment du royaume britannique. Donc, personnellement, je ne vais jamais pleurer si la couronne d'Angleterre roule un jour par terre, comme disait Herbas Reims. Je ne ferai pas partie de ceux qui vont pleurer. Le démantèlement de la perfide Albion et puis l'arrivée peut-être d'une république ou peut-être de l'indépendance des Écossais, des Gallois et la réunification irlandaise qui serait dans la logique de l'histoire, personnellement, tout ça ne me ferait pas pleurer. Donc il y a également cette couronne britannique hein, qui est avec une attitude abjecte du prince Andrew, mais également il y a des mails d'Epstein qui concernent plusieurs personnes. Alors on a Emmanuel Macron notamment, Epstein dit qu'il s'est rendu à l'Elysée, un certain nombre notamment il serait rendu à une réunion, information qui n'a été ni confirmée ni infirmée par l'Elysée, qui nous dit que c'est une affaire américaine, mais on voit quand même que dans les viols, hein, dans les véritablement la prostitution, voire la prostitution forcée, véritable esclavagisme sexuel, remonte en quelque sorte les relations de cet homme avec une kyrielle de dirigeants, ont de tuer, qui donne véritablement la nausée. Rappelons également que, comme par hasard, la lutte contre la pédocriminalité, voire les criminels pédophiles, dans un film magistral comme Sound of Freedom de Mel Gibson, a été éclipsée. On a empêché ce film de sortir, les municipalités, notamment de gauche, se sont opposés, comme par hasard, on se demande pourquoi, à la diffusion du film Sound of Freedom, notamment qui montre les réseaux pédophiles et pédocriminels qui existent entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc l'affaire Epstein, c'est une affaire en effet explosive qui peut faire sauter ce qu'on appelle la superclasse mondiale, comme par hasard qui est mondialiste, liée à un certain nombre de réseaux. Est-ce que l'affaire Epstein, à votre avis, va être étouffée, ou c'est une affaire, Olivier Piacentini, qui peut remettre en cause véritablement le bien-être, l'assise de cette superclasse mondiale?
Je pense que c'est une affaire qui va ébranler le mondialisme. Et je pense que si ça sort maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est bien parce qu'il y a un renversement politique mondial qui est en train, je dirais, de se dérouler sous nos yeux, que, à mon avis, toutes ces affaires peuvent sortir. Je pense que la superclasse mondiale, moi, ça fait 2-3 ans que j'avais observé, en investiguant à propos du forum de Davos, que j'avais observé qu'il y avait un désarroi au sein de la superclasse mondiale à Davos, qui sentait qu'elle était en train de perdre la confiance des peuples. Et il y avait des conférences qui évoquaient cette perte de confiance dans les élites. Et visiblement, M. Schwab et tous ses affidés s'en plaignaient et sentaient que le vent était vraiment en train de tourner. Et je pense véritablement que les révélations qui tournent autour de cette affaire depuis 6 ans coïncident avec l'avènement de mouvements populistes à peu près partout dans le monde. Et donc, progressivement, la perte d'une certaine immunité de la part, je dirais, de cette superclasse mondiale, notamment, évidemment, aux États-Unis. Alors, est-ce que cette affaire va être étouffée? Ben, je ne suis pas persuadé, parce que ça part des États-Unis. Et les États-Unis, en général, vont beaucoup plus au bout de ce genre d'affaires. Enfin, c'est quand même plus virulent que chez nous, qu'en France. Si ce n'était qu'en France, je suis certain que tout serait mis sous le boisseau et qu'on n'en parlerait plus au bout d'un moment, et ils auraient cherché un ou deux fusibles à débrancher, et puis voilà. Mais là, je pense que, comme ça se déroule aux États-Unis, on ira très certainement au bout, et d'ailleurs, même Philippe de Villiers a expliqué il y a quelques jours que ça tremblait dans les palais en France, et que beaucoup de cette superclasse, des membres de cette superclasse, tremblaient en pensant aux révélations qui pourraient sortir dans les semaines à venir, puisqu'il paraît que ce n'est qu'une fraction des noms impliqués qui a été révélé lors du premier déballage, on va dire.
Alors, Pascal Mas, sommes-nous à un point de rupture, à votre avis?
Alors, pas encore. C'est un gros choc pour cette superclasse mondiale et ces gens qui vivent indifféremment, comme M. Glucksmann par exemple,
oui.
Qui vivent indifféremment à Berlin, à New York, à Singapour ou à Delhi. Non, ils sont atteints, mais je ne pense pas qu'ils puissent être ébranlés considérablement parce qu'ils ont une telle puissance, il y a un tel réseau de... Alors, vous parliez des États-Unis, Olivier. Bon, il faut quand même pas oublier qu'il y a un programme qui s'appelle Young Leaders Program.
Oui, oui, oui.
Qui a formé une partie de l'élite... des dirigeants politiques français, à commencer par le plus illustre. Vous avez les Skulls and Bones, vous avez tout un tas de confréries plus ou moins occultes qui sont très puissantes, qui sont très impliquées dans la technostructure américaine et qui vont certainement... pour se prémunir et pour s'auto-amnistier, vont écraser le truc, y compris les journalistes. Faut pas croire que c'est le pays de la transparence, les États-Unis, loin de là. Les journalistes qui déballent des trucs, c'est le même genre que Mediapart. C'est orienté, oui. c'est le Washington Post et le New York Times, c'est pas plus honnête que...
Ça c'est sûr, mais il y a plus de médias indépendants ou de médias contestataires aux États-Unis.
Absolument.
Et prenez par exemple en Grande-Bretagne quand même l'ex-prince Andrew qui se retrouve en prison aujourd'hui.
Et le ministre de je sais pas quoi là de...
Peter Mandelson.
Voilà, il a été arrêté ce soir.
Ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen du Parti travailliste.
Alors, l'ancien commissaire européen travailliste de Tony Blair qui avait bradé les industries textiles européennes au profit des Chinois.
Bah bien sûr, ces gens sont en mission commandée, de toute
façon. Le jour, il jubilait, je me rappelle très bien, quand l'accord avait été signé avec le gouvernement chinois, il semblait jubilé, on dirait qu'il jubile.
Oui, qu'on a vu en photo d'avoir... en slip chez Epstein, voilà, oui, mieux en mieux en plus. Voilà.
C'était un slip chinois.
Ouais, en plus.
De toute façon, il ne nous laisse pas le choix. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a quand même aujourd'hui des personnalités de très haut niveau qui, véritablement, ont des gros problèmes judiciaires. Évidemment, Jack Lang, Mandelson, le prince Andrew et d'autres.
L'héritière de Norvège.
L'héritière de Norvège. Bon, on sent quand même que là, ça commence à toucher véritablement le haut du panier et le cœur du système. C'est du jamais vu. Hein, depuis que le mondialisme se déploie, depuis à peu près 35 ans, la chute du mur de Berlin, une affaire d'une telle ampleur avec des gens de ce niveau impliqués, c'est du jamais vu.
On remarque d'ailleurs que pratiquement toutes les têtes couronnées en Europe sont totalement vermoulues et acquises à l'idéologie mondialiste immigrationniste. On peut parler, par exemple, des Pays-Bas, notamment, oui. On ne peut pas dire quand même que le roi actuel des Pays-Bas est un QI particulièrement élevé, pas plus que son homologue de Belgique, qui passe plus de temps à rompre le jeûne du Ramadan dans les faubourgs de leur capitale que de célébrer les fêtes catholiques, voire protestants pour d'autres. La couronne d'Angleterre, nous en parlait, la couronne de Norvège avec lui, plus une des princesses qui s'est mariée avec un chaman américain ou d'origine africaine qui est connu pour multiplier les viols, notamment les incestes, etc. Donc ces gens sont peu ragoûtants. Un de mes amis néerlandais, qui est proche du Parti de la Liberté, Geert Wilders, me disait que c'était pour ça en effet qu'il combattait pour la République, que les provinces unies étaient un âge d'or bien plus que des monarchies aux Pays-Bas. On peut comparer, d'ailleurs, c'est pas rien, il y a peut-être que la monarchie espagnole, avec la dignité quand même du roi Philippe VI, qui a eu quand même le courage de mettre son père à la porte, lui botter les fesses, l'envoyer aux Émirats et le priver de sa pension, qui également a approuvé les juges qui ont envoyé son beau-frère en prison pour corruption et qui a tapé du poing sur la table au moment du pseudo-référendum d'indépendance de la Catalogne. Le roi Philippe VI me semble peut-être le seul d'être digne, en tout cas, de porter et de représenter l'État espagnol. Mais on voit également que dans ces mondialistes, même les têtes couronnées sont vermoulues et sont plus ou moins également contaminées par toutes ces affaires nauséabondes. C'est pas un hasard non plus.
C'est clair. Non, mais le roi Philippe d'Espagne a démontré son courage en affrontant la population exaspérée lors des inondations l'année dernière.
Alors que le ministre Pedro Sánchez ne pouvait pas venir.
Il a rebroussé chemin avec sa magnifique voiture, avec chauffeur, voiture blindée, etc. Il est parti comme un voleur, il n'a même pas pu descendre. Alors que le roi et la reine, je la mets au même temps, ont affronté la colère.
Et la boue.
Ils ont répondu. Ils sont venus, alors qu'ils ne sont pas directement responsables de la situation. Ils n'ont pas, je dirais, de pouvoir politique opérationnel, en particulier pour des questions comme celle-là. Mais ils ont quand même voulu partager la souffrance du peuple et leur montrer qu'eux étaient là pour leur apporter un réconfort, encore une fois, dans un contexte où l'énervement et l'exaspération devaient être à son comble. Donc on voit bien que c'est la seule monarchie, effectivement, en Europe, où le roi, je dirais, tient son rôle et représente dignement le grand peuple espagnol.
Et je dirais même plus à ce niveau, c'est que des gens qui étaient un petit peu dubitatifs sur la nécessité d'avoir un roi en Espagne, y compris de la gauche, et après cet épisode, ils ont dit, mais finalement, il est bien pratique, ce gars-là.
Ah bah oui.
Et parce qu'il fait l'unité du pays. Et après l'aventure de la pseudo-indépendance catalane, ça fait du bien de voir que c'est un vrai pays, que l'Espagne, c'est un pays fédéral, hein, bien sûr, mais c'est quand même un vrai pays. Et les voisins, c'est-à-dire nous, et puis le Portugal, on voit comment ça se passe. Donc, l'affaire de l'inondation à Valencia, dans la province du Levante, ça a redonné une légitimité morale à la couronne espagnole.
Je trouve également. Mais ce qui est frappant quand même, c'est que beaucoup de pays qui étaient considérés comme très fragmentés, comme la Belgique, comme l'Italie, avec le problème du Mezzogiorno, ou l'Espagne, aujourd'hui semble plus solide que la société française, qui a l'air d'être complètement en voie d'implosion, qui, on peut dire que ça ne ressemble même plus à une nation. On a l'impression vraiment de quelque chose qui est complètement à volo, où tout le monde s'en fout, où la majorité des gens semblent résignés. Et encore une fois, Espagne, Belgique, Italie, c'était des pays qui étaient identitairement et par rapport aussi à la solidité de l'État, considérés comme beaucoup plus fragiles. Eh bien, ces trois pays ont réussi à remonter la pente, et même si la situation est difficile partout, hein, semblent aujourd'hui plus solides, plus fiers d'eux-mêmes qu'un pays comme la France qui est véritablement dans une forme de dépression très avancée.
Et dirigé par quelqu'un depuis 9 ans qui veut également, qui joue la fractionnement dans son intérêt. Macron est quelqu'un qui passe son temps à provoquer, à fractionner aujourd'hui. Et l'assassinat de Quentin, il en profite pour mettre un coup à la France insoumise, mais surtout au Rassemblement national, qui est quand même beaucoup plus dangereux potentiellement pour lui que la France insoumise, qui aujourd'hui est un faire-valoir, qui ne peut pas arriver au pouvoir, on le sait très bien, qui est incapable de coaliser les gauches ou quoi que ce soit. Mélenchon le sait pertinemment, il sait que sa chance, en effet, c'est de provoquer le chaos, alors soit directement, soit en effet dans l'hypothèse d'une arrivée possible de l'Assemblée nationale au pouvoir. D'ailleurs, sa porte-parole, hein, puisque tous sont des marionnettes, sa marionnette à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dit clairement, d'ailleurs, ça n'a choqué personne, Madame Braun-Pivet n'a pas fait de rappel au règlement ou quoi que ce soit, a dit que de toute façon, elle n'accepterait pas, la France Insoumise n'accepterait pas le résultat des urnes si le Rassemblement national arrivait au pouvoir en 2027. Oui. Je crois que ce type de propos devrait falloir à cette parlementaire d'être au minimum convoquée par la présidente de l'Assemblée nationale, hein, qui reprend les gens pour rien, etc., qui d'ailleurs est celle qui prive qui est la présidente, comme par hasard, macroniste, qui a le plus privé, notamment, de liberté, plus sanctionner les parlementaires dans toute l'histoire de la République. Hein, c'est quand même un signe.
Je voudrais rajouter quelque chose à ce sujet, c'est qu'on en parle un petit peu d'une manière anecdotique, mais toutes ces nominations que Macron fait actuellement, c'est aussi pour noyauter, pour sécuriser
bien sûr
la technostructure, l'État profond français...
Et l'Union européenne.
Et l'Union européenne, dans l'hypothèse éventuellement d'un sursaut patriote et républicain patriote. Donc l'extrême gauche est d'une certaine manière l'allié de Macron pour tout verrouiller. Ah bon, moi je dis souvent, ça fait rire, mais maintenant ça fait moins rire quand je le dis, que l'Union Européenne, c'est l'URSS de Brejnev,
oui,
bah avec le comité central.
Oui, parce que Brejnev avait inventé le même concept qui s'appelle la souveraineté limitée.
C'est
et
ça.
Juncker, l'ancien président alcoolique de la Commission européenne, avait dit en effet, avait pratiquement parlé de l'Union Européenne dans ces termes, que la souveraineté des États était limitée, qu'il n'y avait pas de chemin de retour.
Et moi je retrouve, parce que bon, j'ai connu cette époque, je retrouve le Politburo de Brejnev, qui s'appelle la Commission, et puis après le Parlement Européen, c'est le Comité Central, et puis les États, ce sont les républiques soviétiques de l'époque, tout simplement. Hein. Donc la France, c'est peut-être l'Azerbaïdjan, ou le Kazakhstan, je ne sais pas. Mais moi je retrouve, mais complètement, c'est pour ça, bon, peut-être qu'à force de lire... Trotsky, ça me revient, mais je retrouve, mais dans, là aussi, dans les méthodes, comme je disais tout à l'heure à propos de la LFI, les méthodes de l'Union Européenne, la dialectique, la limite de pensée, je retrouve, mais l'Union Soviétique des années 70.
Mais et d'ailleurs, je vais vous dire, quand les caciques du régime soviétique commençaient à s'inquiéter de la dégradation de l'économie, de la société, dans les années 80, quand on voyait bien que l'Union soviétique était en train véritablement de s'effondrer à petit feu, que c'était le colosse au pied d'argile, eh bien, ces mêmes caciques disaient « mais c'est normal, ce n'est pas parce qu'on est trop communiste, c'est parce qu'on n'est pas assez communiste, il faut faire plus ». Eh bien, nous, en Europe, on est vraiment le continent qui est complètement largué au niveau de la croissance économique, au niveau, je dirais, de la capacité politique, de la puissance sur l'ensemble de la planète. Eh bien, on nous explique que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Or, toutes les nations européennes sont en baisse depuis des années, qu'il s'agisse de géostratégie, d'économie, d'aura internationale. On voit bien qu'on est en train véritablement d'être submergé par la vague des pays émergents, sans que l'Union européenne ne réagisse, et même je dirais qu'elle contribue plutôt à enfoncer nos nations. Et on nous explique qu'en fait, il n'y a pas assez d'UE.
Voilà. Alors justement, nous allons passer au thème suivant, justement sur... qui concerne également les affaires du monde, qui est la politique de Trump en matière douanière. Alors là, on a vu que les tarifs, notamment de la Chine, avaient été contestés. Alors la contestation n'était pas je ne sais pas, je me souviens plus qui a porté la contestation à la Cour suprême. Il me semble que c'était la majorité, enfin pas la majorité, mais le groupe démocrate au Congrès, ce qui en dit long, notamment sur les démocrates, alors que Trump a engagé, lui, notamment la guerre commerciale contre la Chine. Les démocrates sont en quelque sorte les relais des intérêts chinois, mais n'est-ce pas après tout logique, puisqu'on sait qu'en 2001, c'est Bill Clinton, président, qui avait fait admettre au forceps l'entrée de la Chine à l'OMC, oui, l'Organisation mondiale du commerce, alors que je rappelle que pour être membre de l'OMC, il faut avoir ce qu'on appelle une économie de marché. Une économie de marché, c'est une économie libre, notamment où les conditions de la concurrence pure et parfaite sont fixées de façon libre, et on sait très bien que la Chine est un pays qui triche, notamment sur l'établissement des prix, en faisant travailler des prisonniers, et qui sous-évalue de façon frauduleuse, il faut le dire, sa monnaie, le yuan. Donc les démocrates sont en quelque sorte véritablement ici les idiots utiles, non seulement du mondialisme surtout, mais de la Chine. Alors, que faut-il en conclure, Olivier Piacentini, vous qui êtes économiste, de cette décision de la Cour suprême ?
Ah ben c'est tout simplement une espèce de forfaiture pour lutter contre la politique de Trump, tout simplement parce que les démocrates constatent que la politique de Trump depuis un an consiste à casser, à mettre à bas tout le système international qui emprisonne les nations occidentales. Et j'en avais parlé dans toute une série de livres. Nos nations occidentales sont toujours, selon moi, d'immenses nations avec de très fortes capacités, mais elles sont emprisonnées dans tout un réseau, je dirais, d'institutions qui freinent à la fois leur souveraineté, leur capacité économique, et effectivement, les relations économiques entre la Chine et l'Union européenne, et les États-Unis également, sont un véritable scandale. Quand la Chine est entrée dans l'OMC en 2001, elle avait un cahier des charges qui lui était imposé en termes d'évolution sociale, d'évolution politique, d'évolution environnementale, sanitaire. Elle n'a jamais rien respecté. Je vais vous prendre un exemple qui est frappant. On nous bassine toute la journée avec le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre. Bien. En avril 2021, il y a eu un sommet climat en visioconférence, puisqu'on était pendant la période Covid, et tous les pays se sont engagés. Il y avait Poutine, Xi, Draghi, Monsieur Johnson, Monsieur Biden, Monsieur Macron, enfin bref, tout le gratin, Poutine également. Et tous les pays se sont engagés à réduire les gaz à effet de serre. Évidemment, les États-Unis 45% de réduction d'ici 2030, l'Angleterre 50%, les pays de l'Union européenne 55%, nous on est toujours les champions, bien entendu, et la Chine, vous savez combien ? Zéro. Il a dit, M. Xi a dit, je vais faire de mon mieux. Alors, M. Xi, il est intelligent, il a raison, il défend son pays, qui, je vous le rappelle, émet plus de 30% des gaz à effet de serre sur la planète. Mais le problème, c'est qu'aucun de ses homologues étrangers n'a exigé que la Chine se plie aux mêmes conditions. Nous sommes donc en phase d'une écologisation accélérée à coup de normes contraignantes qui sont en train peu à peu de détruire et notre agriculture et nos industries. Alors que la Chine a libre cours, elle est autorisée à polluer, elle a un permis de polluer, et de polluer en masse, puisque c'est le plus gros pollueur mondial. Effectivement, François a bien fait de le rappeler, le yuan n'est pas une monnaie libre qui, je dirais, se confronte au marché et vogue au niveau, je dirais, du système d'offres et de demandes comme toutes les autres monnaies mondiales. C'est une monnaie qui est contrôlée par le gouvernement, et le gouvernement chinois continue depuis 25 ans de maintenir une sous-évaluation du yuan de l'ordre de 30%, qui permet évidemment de soutenir la politique exportatrice du Parti communiste, puisqu'évidemment, quand la monnaie est faible, eh bien, vos produits à l'export sont beaucoup moins chers. Et le pire dans tout ça, c'est que personne, finalement, n'a jamais rien dit. Tout le monde tolère ça. Cette distorsion de concurrence qui est scandaleuse, on voit bien à travers tout cela qu'aucun dirigeant européen n'est capable, je dirais, d'engager un bras de fer, à part effectivement M. Trump, face aux Chinois. On a vu l'année dernière, quand M. Trump a appliqué des tarifs de 30% pour la Chine et de 15% pour les Européens, il a sollicité les Européens et leur a proposé de mettre en place eux aussi des barrières douanières vis-à-vis de la Chine. Les Européens ont préféré prendre les droits de douane de Trump plutôt que d'appliquer eux-mêmes des droits de douane à la Chine. Voilà, avec une logorée de théories libre-échangistes dont on voit bien qu'elles sont véritablement totalement éculées.
Alors, une information qui vient de tomber, qui a plutôt tendance à me réjouir, c'est que l'ambassadeur américain convoqué au Quai d'Orsay pour avoir très justement parlé notamment du danger de l'extrême gauche en France, eh bien, ne s'est pas présenté au rendez-vous au Quai d'Orsay.
Oui.
On comprend tout à fait cette démarche, notamment les États-Unis n'ont pas à plier devant un pays, notamment qui devrait avant tout regarder sur lui-même, au lieu de donner des leçons de morale au grand entier. Je voulais saluer le geste de l'ambassadeur américain. Voilà.
Oui, mais ça montre malheureusement que notre pays ne pèse plus rien, qu'il n'est plus considéré, qu'il est humilié et traité comme
les insultes, notamment les insultes comme d'habitude teintées d'amateurisme, d'arrogance et d'immaturité d'Emmanuel Macron à Giorgia Meloni. Je soutiens tout à fait la position de l'ambassadeur américain. On se comporte pas, on ne se rend pas à une réunion de quelqu'un qui se comporte mal. Voilà. Cela dit, Pascal souhaitait ajouter quelque chose sur la politique des droits de douane américaine.
Oui, parce que cette politique qui est vraiment un grand bouleversement, je le dis devant un économiste que Olivier Piacentini, ça bénéficie au peuple américain. C'est-à-dire qu'en vérité, Donald Trump fait dans ce chapitre aussi ce qu'il a dit. Il le fait, ça ne plaît pas, mais il le fait quand même. Et on commence à sentir déjà un redressement de certaines parties de l'économie américaine qui étaient en pleine crise et qui, grâce à ces droits de douane et à ce rétablissement de la vérité des prix à travers les droits de douane, permettent à certaines branches de l'économie américaine qui étaient affreusement abîmé, de survivre non seulement et de prospérer de nouveau. Donc ça crée des emplois.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous, mon cher Pascal. Le gros problème de l'économie américaine, eh bien, elle a quand même des points communs avec l'économie française, c'est qu'elle est totalement désindustrialisée, que tout le système qui jusqu'à présent était fondé sur le libre-échange a transformé l'économie américaine en une économie de consommation, avec quand même cette spécificité qu'il y a le numérique qui est très porteur, que nous n'avons pas. Il y a ce moteur-là, mais enfin le numérique, c'est pas ça qui va embaucher des ouvriers, vous voyez.
Néanmoins Trump, qui a quand même une volonté de réindustrialiser assez forte.
Les droits de douane,
n'oublions pas, ils sont faits pour ça. Notamment les premiers qui ont été faits, c'est au Mexique,
et
pour rapatrier l'industrie automobile américaine.
Et ça avait déjà marché lors de son premier mandat, mais malheureusement, le mandat s'est fini en eau de boudin à cause évidemment du Covid. Mais pendant les deux premières années de son mandat, l'économie américaine avait connu des taux de croissance et une réindustrialisation remarquable. Et je pense que ça va continuer comme ça, effectivement. Là, il a décidé de se heurter frontalement et massivement à tout le carcan internationaliste qui existe à l'échelle mondiale et aux États-Unis. Donc il a vraiment engagé un très grand bras de fer, et s'il arrive véritablement à s'imposer, eh bien il va redresser l'économie américaine dans les mois qui viennent, et déjà il y a des premiers signes très tangibles. Par exemple, un afflux massif de capitaux européens vers les États-Unis pour des financements et des investissements industriels. On le voit, il y avait les Échos qui en parlaient aujourd'hui. Concernant les droits de douane, eh bien j'ai eu la grande surprise la semaine dernière de tomber sur un rapport du Haut Commissariat au Plan, M. Clément Beaune, qui réclamait des droits de douane de 30% et une dévaluation de la monnaie chinoise. Alors, ce qui est extraordinaire,
oui, tout le monde sait que M. Beaune a certainement la force mentale et physique d'aller voir M. Xi Jinping et autoritairement, notamment, de lui intimer d'arrêter de sous-évaluer le yuan. Voilà.
L'année dernière, il a pris Donald Trump pour un fou. Il en parlait clairement comme un fou qui était en train de casser l'économie mondiale. Maintenant, il lui rend hommage en reprenant exactement les idées et le programme qu'il a mis en œuvre. C'est quand même extraordinaire. Vous en conviendrez.
Alors, nous allons toujours parler des États-Unis, mais assez brièvement, notamment la question de l'Iran. Alors, sur l'Iran, justement, il y a des négociations qui ont lieu à Oman, justement, sur, à mon avis, ce qui est une illusion, c'est-à-dire le programme nucléaire iranien. Il faut savoir qu'à mon sens, c'est mon opinion, jamais le régime iranien ne renoncera au nucléaire, parce que c'est sa clé de voûte. Le régime iranien ne veut pas utiliser l'arme nucléaire pour l'envoyer partout au Proche-Orient, y compris contre Israël, mais uniquement l'utiliser comme la Corée du Nord, comme clé de voûte, comme garantie en quelque sorte de son régime. Donc il faut savoir que les Américains se leurrent là-dessus s'ils comptent un armement nucléaire. Je rappelle que l'accord de 2016 n'a pas empêché les Iraniens de multiplier, notamment de hausser les niveaux d'enrichissement de l'uranium. Alors, sommes-nous vers un conflit ou est-ce que cet accord hypothétique aboutira, Pascal Mas?
Alors, bon, déjà, il faut voir aussi que, faut prendre un atlas, hein, quand on veut parler de l'Iran, il faut voir qui sont les voisins. Et donc, les voisins ne veulent ni d'un État déstabilisé, un État iranien déstabilisé, qui pourrait avoir des conséquences justement sur les populations qui sont de part et d'autre de leurs frontières respectives. Et ils ne veulent pas non plus que ce soit un État qui retrouve sa souveraineté intégrale et surtout sa richesse. Je me prends toujours comme exemple l'état de l'économie et du développement de l'Iran en 1979, au moment de l'arrivée de Khomeini à Téhéran. C'était la 9e puissance mondiale. Les autres pays voisins, c'était des tas de sable. Faut pas le dire. Bon, maintenant, ça a changé. Mais ils ne veulent pas être surclassés. L'Iran, c'est 92 millions d'habitants par rapport à la petite Arabie Saoudite avec ses 20 millions, et dont une bonne moitié d'étrangers. Donc, ils n'ont pas du tout envie que l'Iran redevienne une puissance régionale. Surtout, là, cette fois-ci, pleinement souveraine, c'est-à-dire pas sous l'emprise des compagnies pétrolières britanniques et américaines, comme c'était le cas avant 1979. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir un conflit. Il va y avoir beaucoup de gesticulations, des déclarations. Trump sait très bien que les Iraniens ne tiennent jamais parole. Donc, il sait très bien, c'est un homme d'affaires, donc il sait à qui il a affaire, c'est le cas de le dire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un conflit. Mais par contre, des petites escarmouches, peut-être des petites provocations et tout, pour donner l'impression surtout aux populations respectives iraniennes et américaines, qui font quelque chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait une déflagration, au moins dans l'année actuelle.
Il nous reste 5 minutes, sauf si Olivier Piacentini voulait ajouter quelque chose sur la question.
Non, je souscris totalement à ce que vient
donc,
de dire
sommet
notre
sur,
ami Pascal.
Un sommet mondial s'est tenu sur l'intelligence artificielle en Inde. On sait que l'Inde est avancée également là-dessus, puisque c'est le pays, je rappelle, qui produit le plus d'ingénieurs, notamment dans le numérique au monde. Pascal Mas, alors que Olivier Piacentini, je salue, est obligé notamment de partir pour un rendez-vous extérieur. Je voulais le saluer et le remercier pour son intervention.
Merci cher François, merci bientôt, cher Olivier. Pascal, et je suis ravi de retrouver ce public qui m'a toujours prêté une oreille attentive.
Merci Olivier, à bientôt. Cher Pascal Mas, donc je continue avec vous. Donc le sommet sur l'IA, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la teneur de ce sommet de l'IA?
Alors ça a été comme c'était prévu, beaucoup de bavardages. Pour arriver à la conclusion qu'on est d'accord sur le fait qu'on est d'accord sur rien. Donc c'était alors bien sûr Macron a fait son cinéma en disant la Startup Nation etc. Mais sur le fond la déclaration finale n'engage rien ni personne sur rien. Les pays qui sont bien en avance en matière de l'IA, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, où se passait la convention, n'ont pas du tout envie d'être contrôlés, d'être surveillés comme le préconise l'Europe, encore une fois. Et donc, tout le monde a fait des sourires, mais il n'y a eu aucune avancée. Je voudrais aussi dire quelque chose, puisque vous avez la gentillesse de parler des BRICS. Bon, l'Inde, c'est le I des BRICS, bien sûr, avec une industrie et des recherches en matière de nouvelles technologies absolument incroyables. On parle souvent de la ville de Bangalore, qui est l'équivalent de la Silicon Valley américaine. Des trucs comme ça, nous, on n'en a pas ici en Europe. Hein, des telles concentrations de savoir, de recherche, d'innovation, on n'en a pas. On a des parcs technologiques, on a des Saclay, des choses comme ça, mais c'est tout. On n'a pas une grosse puissance économique destinée à la recherche et à l'intelligence artificielle. Et pourquoi j'ai parlé des BRICS? Parce que les BRICS ne sont pas, contrairement à ce qu'on raconte en permanence, une alliance économique et tout ça anti-occidentale, mais il y a de multiples commissions dans les BRICS. Et l'IA fait partie, au même titre que la préservation des tigres ou de la mode, il y a des commissions BRICS pour ça. Donc tous les pays n'y participent pas forcément, mais c'est peut-être plus dans cette commission de l'intelligence artificielle des BRICS qu'on pourrait trouver une entente entre les différents pays. Je pense bien sûr aux trois pays fondateurs, Russie, Inde, Chine. Mais l'Europe complètement mais absente, mais à tout niveau.
Oui, l'Europe a un recul fondamental en matière d'intelligence artificielle. Alors, position intéressante, les États-Unis ont déclaré notamment, alors, je ne sais plus si le chef de diplomatie était présent, mais son représentant, qu'il était hors de question que la diplomatie soit générée par l'intelligence artificielle.
Absolument.
Qu'en pensez-vous, Pascal Mas? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pouvez un peu expliciter cette position?
Déjà, l'intelligence artificielle, le chat GPT, ce genre de trucs, ce ne sont pas, c'est pas de l'intelligence, c'est de la collecte d'informations, de sujets et de faits passés qui sont retranscrits. On voit ça déjà, par exemple, dans le domaine de la justice. Il y a des avocats qui utilisent l'IA pour faire leur plaidoirie. En vérité, c'est parce que la machine va rechercher partout ce qui s'est déjà dit avant. Mais c'est pas de l'intelligence, ça. Ça,
c'est de la compilation, quelque sorte, d'informations, de la collecte d'informations.
Absolument. Elles sont mieux classées, sont mieux présentées et tout. Mais ça n'a rien de novateur. Donc, bien sûr, les sujets qui à propos de...
Utiliser Google pour aller chercher un arrêt de jurisprudence, c'est de l'intelligence artificielle, déjà.
Voilà. C'est pas l'intelligence, c'est de la collecte d'informations bien réglées. Mais ça a des conséquences extrêmement graves, c'est par exemple dans le domaine de la culture, pour les scénaristes de feuilletons ou de films, où là, les producteurs disent « Bon, écoutez, on n'a plus besoin de vous, je rentre les données dans l'ordinateur et l'IA me sort le scénario d'une série télévisée ». Ça, il y a eu une grève qui a duré pratiquement un an aux États-Unis, à Hollywood, pour ça. Il y a des métiers qui sont menacés par l'IA. Complètement. C'est-à-dire, là, comme je parlais des avocats, un avocat qui conçoit et qui crée une plaidoirie et qui se retrouve face à une machine qui sort la même chose, mais au lieu de le faire en deux jours, il le fait en cinq minutes. Donc, certaines entreprises préféreront mettre des juristes payés au SMIC pour faire de l'IA. Pour faire de l'IA, plutôt que de payer un avocat. Donc il y a pas mal de métiers qui sont directement menacés par ça.
Bien, Pascal Mas, merci. Je remercie également Olivier Piacentini qui a dû nous quitter de façon avancée pour un rendez-vous extérieur. Chers amis auditeurs, bonsoir. Merci beaucoup à merci Virginie pour votre aide précieuse et charmante comme à chaque occasion. Nous ne lasserons jamais de le dire. Merci chers amis auditeurs et espérons-le, à bientôt et dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir dirigé par François Costantini. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 23 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.